France Inter.
Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et à la une, cette histoire corse si singulière qu'elle a inspiré un film. Une surveillante de prison jugée à partir d'aujourd'hui aux assises aux côtés de 15 héritiers présumés du clan de la Brise de Mer. Elle se serait rendue complice d'un double assassinat. Notre récit à suivre. Anticiper le tournant de l'électrique. Le gouvernement met la pression sur les constructeurs automobiles. Objectif 800 000 ventes de véhicules électriques en 2027. 4 fois plus qu'aujourd'hui. Et vous l'entendrez, Bercy veut du made in France. Dans ce journal, nous serons aussi au Brésil, où l'eau continue de monter, tout comme le bilan des victimes, avec des sœurs ukrainiennes qui préparent les JO sous les bombes, et à Toulouse, où l'on va rendre hommage à Nougaro 20 ans après sa mort.
Et au micro de Sonia De Villers, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux élections européennes.
France Inter.
Une plongée, Alexis, dans le grand banditisme corse.
Ouais, c'est ce qui attend la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, où s'ouvre ce matin sous très haute surveillance le procès d'un double assassinat en 2017 à l'aéroport de Bastia. Un règlement de compte entre gang rivaux, héritiers du clan de la Brise de Mer. Et s'il retient l'attention, ce procès, c'est en grande partie en raison du profil de l'une des accusées, Cathy Lamatone, comme on l'a surnommée. Cette gardienne de prison à Borgo, suspectée d'avoir aidé les assassins à repérer leur cible en embrassant l'une des deux victimes à l'aéroport. Jean-Philippe Degnaud.
Pendant la longue instruction, Cathy a tout reconnu, tout assumé, tout revendiqué, jusqu'à indiquer au psychiatre que le clan, je l'ai choisi, on n'y touche pas, on n'en parle pas, on le protège, c'est ma famille. Pour son avocat, maître Renaud Portejoie, la jeune surveillante pénitentiaire était petit à petit tombée dans la fascination du grand banditisme corse, comme pour donner du sens à sa vie.
Certains ont évoqué à juste titre aussi le côté un peu romanesque à la Emma Bovary, à savoir qu'il y avait une forme de lassitude dans sa vie de tous les jours, elle est mère de 4 enfants, elle s'ennuie un peu et je crois qu'elle avait besoin peut-être aussi de ce frisson.
Après 6 années de détention provisoire, c'est maintenant devant les jurés que celle qui semble la plus disposée à s'exprimer va livrer ses explications, promet maître Portejoie.
Elle est courageuse, elle sait qu'elle doit payer pour ce qu'elle a commis, elle assumera. Et j'espère que les jurés comprendront ce passage à l'acte très singulier, cette affaire dans l'affaire, et rendront une justice qui sera intelligente.
Et comme les auteurs principaux de ce double assassinat, Cathy Lamatone risque aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité.
Et cette histoire a donc inspiré le film Borgo de Stéphane de Moustier en salle depuis un mois, au grand dam d'ailleurs des avocates de la Défense. Le vrai procès, lui, va durer 2 mois à Aix-en-Provence. Cette série noire à Sevran en Seine-Saint-Denis avec 2 nouveaux morts hier soir dans une fusillade. Moins de 48 heures après un premier mort par balle dans cette même ville. Pour les autorités, peu de doute, toutes ces affaires sont liées au trafic de drogue.
Il est 7h33, la France ne veut pas attendre 2035 pour produire bien plus de voitures électriques.
Et 2035, c'est la date à laquelle il sera interdit en Europe de vendre des voitures thermiques neuves. Pour anticiper l'échéance, ce changement, comme il en arrive une fois par siècle dans l'industrie, selon le ministre de l'économie, eh bien le gouvernement signe aujourd'hui avec la filière automobile française un nouveau contrat stratégique. Et Maxime Debs, les objectifs de Bercy sont très ambitieux.
Pour Bruno Le Maire, la France doit garder le cap sur l'électrique et vise une multiplication par 4 du nombre de véhicules électriques vendus chez nous, de 200 000 aujourd'hui, passer à 800 000 demain, horizon 2027. Objectif clair, donc, booster les ventes, mais surtout produire davantage sur le sol français. La nouvelle R5 électrique sortira bientôt de la chaîne de montage à Douai, la i3008 de celle de Sochaux chez Stellantis, mais en réalité 12% seulement des véhicules électriques vendus sur le territoire sont effectivement made in France. C'est trop peu pour Bercy qui veut donc accélérer. Alors que 50 000 ménages modestes ont saisi l'occasion du leasing social pour franchir le pas de l'électrique cette année, que le dispositif sera reconduit et que la France a notamment développé un crédit d'impôt vert qui bénéficie aux usines de batteries lesquelles continuent de sortir de terre. Des batteries que l'on peut recharger sur des bornes ouvertes au public au nombre de 100 000 aujourd'hui. Objectif, les multiplier par 4 désormais. d'ici 2030.
Et passer à la vitesse supérieure face à la concurrence chinoise notamment. Concurrence déloyale, pointe ce matin la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avant de rencontrer le président chinois à Paris. Xi Jinping va enchaîner les rendez-vous à l'Elysée en cette première journée de visite d'État, entrecoupée d'une cérémonie en grande pompe aux Invalides. Il sera donc question de commerce, mais aussi de guerre en Ukraine. Emmanuel Macron veut convaincre son homologue de ne pas basculer dans le soutien direct à Moscou. Est-ce le signe d'une intervention imminente à Rafah, dans le sud de Gaza ? Ce matin, l'armée israélienne encourage les habitants de cette localité à évacuer vers des zones humanitaires. Nous serons à Jérusalem dans le journal de 8 heures. Malgré les pressions internationales, notamment américaines, le Premier ministre israélien s'est toujours dit déterminé à mener cette offensive militaire sur Rafah, où sont réfugiés plus d'un million de Gazaouis. Au Brésil, 100 000 habitants du sud du pays passent une nouvelle nuit loin de chez eux, évacués en urgence face à la montée des eaux. L'état du Rio Grande du Sud subit depuis plusieurs jours des inondations cataclysmiques. Le bilan monte ce matin à 78 morts, 105 disparus. Le président brésilien s'est rendu hier soir à Porto Alegre. Sur place pour Inter, Jean-Mathieu Albertini.
Depuis un hélicoptère, Lula survole Porto Alegre et constate l'ampleur des dégâts en compagnie du gouverneur local. Alors que le niveau du fleuve Guaiba a grimpé de 5,30 m, la crue la plus violente de son histoire, une bonne partie de la ville est sous les eaux. Mais la capitale est loin d'être la seule affectée et c'est bien l'ampleur de la catastrophe qui angoisse le gouverneur Eduardo Leite.
C'est un scénario de guerre dans la région. Dans d'autres épisodes de catastrophes climatiques, tout se limite généralement à une localité. Mais cette fois, il y a une caractéristique différente, c'est son extension gigantesque. Et cela englobe des zones très peuplées, il y a donc un risque imminent d'effondrement de divers services dans le Rio Grande do Sul.
334 municipalités sont touchées sur les 497 que compte l'État. 800 000 domiciles n'ont plus accès à l'eau et plus de 100 000 personnes ont dû quitter leur maison. Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais face à l'étendue du désastre, l'entraide est essentielle. Canoë, jet ski, chaîne humaine, tout est bon pour exfiltrer des personnes bloquées par les pluies et la mobilisation continue alors que de fortes précipitations sont encore attendues ces prochaines 24 heures. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
Séjour d'élection présidentielle au Tchad avec un scénario inédit. Mahamat Déby, proclamé chef de l'État par l'armée il y a 3 ans après la mort de son père, affronte son premier ministre, l'ancien opposant Succès Masra. À 2 mois et demi des JO, voilà de quoi améliorer un peu les trajets entre l'Est et l'ouest de l'Île-de-France. C'est ce matin qu'ouvre au public le prolongement du RER E entre le centre de Paris et le quartier d'affaires de la Défense, mais aussi Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Très attendu, notamment pour soulager le RER A. 3 nouvelles gares, 5 milliards d'euros de travaux, avec l'espoir pour les usagers, Valentin Bertrand, de gagner du temps.
Pour Vincent, fini la demi-heure de trajet et les correspondances entre Gare du Nord et la Défense. Avec le RER E, il mettra
10 minutes le matin. Et j'arrive à 8h30 au lieu de 9h moins les quarts.
Et bon, le matin c'est important, le soir également.
Un temps réduit grâce à la vitesse des nouveaux trains. Ils vont rouler à 120 km/h, 2 fois plus vite qu'aujourd'hui. Et surtout offrir un itinéraire bis à Jonathan.
Quand on voit effectivement trop de monde sur les quais, ça permet en quelques pas de changer de quai et de prendre la E pour remonter sur Porte-Maillot par exemple. Et c'est une alternative. Je pense que ça va beaucoup désengorger la 1 et la A.
C'est tout l'objectif, moins 15% de fréquentation attendue sur la ligne A, mais pas pour tout de suite. Jusqu'à la fin de l'année, le prolongement du RER E ne sera ouvert que de 10h à 16h.
C'est une plaisanterie, non ?
Ils font ce qu'ils peuvent, je pense, mais au moins ça fonctionnera partiellement pour les JO.
C'est vrai ? Pourquoi ils ont fait ça ?
Car les nouvelles rames ont encore besoin d'être testées. Margot, 20 ans, devra donc encore être patiente.
Jusqu'en décembre, ça risque d'être compliqué parce que c'est pas sur les heures de pointe, enfin 10h, 16h, c'est là où il y a le moins de monde dans les transports.
De la patience, il en faudra aussi aux habitants des Yvelines. Pour eux, le prolongement du RERE jusqu'à Mantes-la-Jolie, ce sera fin 2026.
Ouais, le fonctionnement ne sera donc que partiel pendant les Jeux Olympiques. Reportage France Bleu Paris. Des JO pour lesquels les sportifs ukrainiens s'entraînent malgré la guerre. Comme ses jumelles Marina et Vladislava Alexiva, qualifiées pied en natation artistique. Jérôme Val les a rencontrés ce week-end lors de leur passage à Saint-Denis pour une étape de la Coupe du Monde.
Des sourires dans l'eau pendant les chorégraphies, la recherche du geste parfait, comme toutes les nageuses.
Elles ont intitulé leur duo War Stories.
Mais les histoires de la guerre ne sont jamais très loin dans l'esprit des jumelles de 22 ans.
Tout à l'heure, j'ai oublié de désactiver les notifications de mon téléphone sur les alertes en Ukraine et ça me stresse.
Il y a eu du tonnerre l'autre jour à Paris et ça nous a effrayés.
Marina et Vladislava, surnommées Vlada, n'ont pas une préparation comme les autres entre leur ville natale, Kharkiv, à 30 km de la frontière russe, et Kiev, raconte Vlada Alexiva.
Nous aurions pu rester à l'étranger, mais nous avons tous nos proches en Ukraine, nos parents, nos grands-parents, mon mari. C'est moins stressant d'être tous ensemble.
Et les risques sont partout, insiste Marina, la plus bavarde.
C'est comme dans un film d'horreur. On est dans la piscine, on entend une explosion et il faut courir s'abriter. Pour quiconque, ce serait une situation anormale, mais pour nous, c'est devenu normal.
Les deux sœurs vont rester quelques jours dans le sud de la France avant le retour en Ukraine, en juin.
Tout est difficile pour nous, sortir d'Ukraine, y retourner, s'entraîner. Mais nous voulons rester positives.
Avant un grand rêve, cet été, décrocher une nouvelle médaille olympique pour elle et pour leur pays.
Jérôme Val.
Il est 7h40 à Toulouse. On s'apprête à fêter l'artiste qui a fait la fierté de la ville.
Et bien au-delà des rives de la Garonne, je veux parler bien sûr de Claude Nougaro, 20 ans après la mort du chanteur dont la carrière et la vie sont indissociables de la ville rose. Les Toulousains Mathieu Culeron vont donc multiplier cette année les événements en son honneur.
Au mon pays, au Toulouse.
Pour rendre hommage à l'enfant du pays, Toulouse a décidé de faire de 2024 une année Claude Nougaro. Francis Grasse est maire adjoint à la culture de la Ville Rose.
Pour moi, l'idée que j'ai proposée, c'est qu'on fasse ce que j'ai appelé une année Nougaro, pour qu'on se rappelle l'homme, évidemment, mais surtout qu'on fasse vivre sa mémoire. La mémoire s'efface très vite. Nos enfants, nos petits-enfants, il y a quelque chose à transmettre.
Effectivement, la mémoire doit être entretenue devant la statue de Nougaro derrière le Capitole. Un couple de jeunes adolescents a du mal à situer le chanteur.
Une station de métro, minime Claude Nougaro. Oui.
C'est une station de métro ?
Oui.
Quelle ligne ?
Ligne B.
Yvan Cugius, lui, va partir sur la route pour chanter Nougaro un peu partout en France. Et pour lui, c'est toute une région que le chanteur a rendu fier grâce à son accent.
Un torrent de cailloux roule dans ton accent.
Très tôt, j'ai compris que c'était un ambassadeur de notre accent, notamment cet univers du jazz qu'il a traité avec cet accent du sud-ouest. C'est quand même improbable. Et ça contribue à son swing. Il a fait de cette singularité une force à part entière. Avec un phrasé, une accentuation qui était vraiment unique et qui a marqué les esprits.
L'année Nougaro à Toulouse avec un grand concert gratuit devant le Capitole le 9 septembre prochain et des hommages un peu partout en France.
Quatre boules de cuir.
Oui, notamment le 7 juillet à Jazz à Vienne, mais aussi le 10 juillet au Francofolie de La Rochelle.
Merci Alexis Morel. À suivre Yaël Gauss, Dominique Seux, Sonia De Villers.